C'est toujours votre émission quotidienne sur l'autre radio, ça s'appelle l'Agité du local et nous sommes le mardi 9 février avec une question justement auquel nous essayons de répondre. Comment les associations continuent et adaptent leur mission en cette période si particulière? Nous avons évoqué hier le Secours Populaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une toute autre association basée à Laval, la GOM 53, qui travaille sur les orientations sexuelles et les transidentités en Mayenne. Julien Bestin est le cofondateur de l'association qui regroupe une dizaine de bénévoles.
On a créé l'association en 2012. Donc la GOM 53 a été créée en 2012 à la base pour accompagner sur l'homosexualité puisqu'on était deux hommes à travailler que sur l'homosexualité au tout début. Et au fil des rencontres, au fil de nos propres formations et puis des gens qu'on a intégrés à nos côtés, on est ici sur l'ensemble des orientations sexuelles. Et sur les transidentités. L'idée de base, c'est d'accompagner les questionnements, donc bien sûr des personnes concernées, mais aussi et surtout de leur entourage. Comme on dit souvent, on a beau élaguer le terrain pour les personnes concernées, leur faciliter le cheminement, si elles ont régulièrement des barrières par leurs proches ou par des inconnus, forcément ça aide pas au quotidien. Donc l'idée, c'est aussi bien sûr d'accueillir les personnes dans l'absolu en rien concerné, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de personnes concernées dans sa famille ou dans son entourage, mais qui voudrait faire évoluer sa réflexion autour de ces thématiques-là.
Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit déjà peut-être un minimum sensibilisé aussi à ces questions?
Bah, oui et non, on a envie de dire qu'on accueille au local des gens, enfin voilà, l'idée du local c'est aussi d'accueillir des gens qui se posent des questions et qui n'ont pas d'interlocuteur entre guillemets fiable ou qui peut être à l'aise pour parler de ces thématiques. Bah, nous, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la personne est bienveillante, par respect aussi pour les autres personnes qu'on peut accueillir, pour les personnes concernées qu'on peut accueillir, il y a aussi une sorte de filtre, si j'ose dire, pour préserver chacun. Donc la personne s'engage à être bienveillante et à partir de là, il n'y a pas de souci. Et puis il y a un truc tout bête, c'est quand quelqu'un rentre, on lui demande pas finalement son orientation sexuelle. Donc nous, de but en blanc, on se fiche de l'orientation sexuelle. Finalement, l'intérêt, c'est de faire évoluer les réflexions. Donc que la personne soit concernée ou pas, j'ai envie de dire, pour nous, ça change pas grand-chose à la base.
Et donc il y a cet accueil qui est très important. Est-ce que vous avez continué à le faire avec la crise sanitaire? On sait que c'est plus difficile. Est-ce que le local est toujours ouvert?
Alors oui, c'est en effet, je pense que c'est malheureusement le cas pour tout le monde au quotidien. C'est un petit peu difficile. On navigue un petit peu à vue toutes les personnes qui gèrent des structures, j'ai envie de dire. À l'heure actuelle, le local est ouvert que sur rendez-vous le mardi. Donc on a notre permanence, si j'ose dire, générique le mardi, la rencontre hebdomadaire, qui là, de par les horaires du couvre-feu, n'est ouverte que sur rendez-vous. Parce qu'en fait, on avait essayé et c'est tellement calme que c'est compliqué de fédérer des bénévoles sur des moments si calmes. Du coup, on préfère n'ouvrir que sur rendez-vous pour l'instant. Et on a un autre créneau qui s'appelle questions en tout genre, donc qui est là plus axé sur les transidentités, la non-binarité, toutes ces questions autour du genre finalement, qui est le dernier dimanche du mois, donc qui pour l'instant lui est maintenu, puis on l'a décalé un peu plus tôt dans l'après-midi et il répond à un besoin qui est croissant et sur un créneau où il y a toujours du monde, donc on l'a maintenu pour l'instant de 14 à 17 le dimanche.
Vous disiez qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport à ces questions, puisque c'est un rendez-vous qui est assez récent ou pas du tout?
Je dirais que ça fait 3 ans à peu près, 3-4 ans qu'on a mis en place le créneau dédié à la base aux transidentités, qu'on a ouvert, il n'était pas plus fermé que ça, mais sur lequel on sensibilise bien aussi à parler de non-binarité, à parler de toutes les questions autour du genre finalement. Que c'est quelque chose sur lesquels on a de plus en plus de demandes, les transidentités, la non-binarité. Et on se rend compte que le fait, globalement, sur toutes les thématiques qu'on travaille, mais encore plus sur la transidentité et la non-binarité, rencontrer des gens qui vivent le même parcours que nous, ça aide énormément dans le cheminement de chacun. Ces moments d'entraide, finalement, il y a des moments où on ne fait qu'ouvrir le local, les personnes, entre elles, suffisent à créer une émulsion, à s'entraider et... On a très peu à interagir, alors après, des fois on offre beaucoup, des fois ça se fait simplement par le biais des rencontres, les gens se trouvent leurs réponses mutuellement, partagent leur parcours. C'est aussi l'idée de ces créneaux-là, beaucoup d'entraide finalement.
Être au moins, enfin même au moins et déjà, un lieu d'échange, c'est surtout ça en fait.
Ouais, voilà, offrir un lieu, mais sur toutes ces thématiques-là, c'est impressionnant comme offrir un lieu où finalement, paradoxalement, on peut ne pas entendre parler de ces thématiques-là, ne pas être regarder par ce prisme-là. Je pense souvent à l'exemple de cette femme qui venait nous voir et qui dit « Mais moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on ne parle pas de mon homosexualité. Ici, je ne suis pas la lesbienne de service. » Et c'est quelque chose qui m'a marqué et sur lequel je tiens vraiment à travailler aussi. C'est aussi le fait d'ouvrir un lieu et non pas forcément de répondre à des questions. En fait, ouvrir un lieu où les gens peuvent se poser et être sereins. C'est hyper important aussi, tout simplement. Toutes ces notions de cases, c'est assez marquant au quotidien. C'est qu'on a tous besoin de savoir à qui on a affaire, en fait. Et du coup, sans s'en rendre compte, on met les gens dans des cases. Hommes, femmes, homo, hétéro et sur plein d'autres thématiques. Moi, j'entends régulièrement « Ah tiens, t'es gaucher » quand je me mets à écrire devant les gens. Bon, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Mais voilà, on se rend compte qu'on se met tous les uns les autres dans des cases. Et sur les discriminations, sur les minorités, on n'aime pas être mis, nous, dans une case. Mais ces cases sont quand même importantes. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit. Et ça permet de bien relativiser ou tout du moins d'être aidé, ouais, comme je vous disais à l'instant.
Et justement, alors c'est peut-être difficile de se rendre compte, mais vous estimez à combien de personnes les gens qui viennent vous voir, qui vous contactent, qui passent dans les locaux, alors dans une année on va dire plus classique, hein, parce que là on se doute que 2020 ça a été un peu compliqué, mais...
Ouais, on est sur des périodes qui perturbent un peu tout ça, mais je dirais pas pour autant qu'il y a moins de besoins. Je dirais même qu'il y aurait éventuellement davantage de besoins. Malheureusement, les horaires font que c'est bien compliqué à maintenir, de maintenir une offre fixe. Je sais pas, je dirais qu'on est en moyenne sur les rencontres hebdo du mardi, on est en moyenne sur une quinzaine de personnes. Et le dimanche, c'est très aléatoire, hein. C'est vrai qu'il y a des permanences, que ce soit le mardi ou que ce soit le dimanche, sur les questions en tout genre. Une dizaine le dimanche, peut-être un peu moins le dimanche. Mais c'est vrai que le moment du dimanche lié aux questions de genre est tellement, entre guillemets, intimiste. Et c'est aussi pour ça qu'il est intense. C'est qu'il offre des moments où les gens peuvent vraiment limite se confesser, quoi. Limite, se raconter des choses intimes. Et c'est aussi comme ça que ces personnes avancent, quoi.
Et donc, après, en tant que bénévole, j'imagine qu'il faut... aussi être ouvert et peut-être est-ce qu'il y a une formation, je ne sais pas comment ça se passe, pour arriver aussi à mettre des gens à l'aise et qu'ils se sentent à même de se confier, voilà, comme vous le disiez, des choses peut-être assez intimes finalement.
Oui, mais c'est assez étonnant comme à l'origine on a suivi une formation avec le centre LGBT de Rennes, on se la transmet dans la pratique. C'est vrai que c'est assez étonnant comme il y a des choses parfois toutes bêtes qui font que sans nous en rendre compte on met à l'aise les gens ou que les gens sont naturellement à l'aise par l'organisation d'une pièce, par la manière dont on peut s'asseoir, et puis après les techniques, entre guillemets, les techniques d'écoute. Après j'aime pas parce que ça paraît très préparé, mais c'est vrai que malheureusement pour être un bon écoutant il faut aussi être sensibilisé, savoir ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et le secret du... Moi, j'ai envie de résumer ça à la capacité ou à la puissance du silence. C'est impressionnant comme les silences peuvent apporter beaucoup. Sans compter, bon là, c'est pas très Covid, mais sans compter les accolades, combien de sanglots ont reçu les épaules de nos bénévoles. Et ça, c'est impressionnant aussi comme ça amène de l'intensité. On sent vraiment un lâcher-prise parfois quand les gens... Quand les gens ont envie de... On sent l'émotion monter et quand les deux personnes, autant le bénévole, il y a des bénévoles qui ne sont pas du tout tactiles et qui ne sont pas du tout là-dedans, mais quand le feeling passe et que les deux sont... Bah, écoute, viens, il n'y a pas de souci, lâche la pression. Il y a des fois, on sent que malgré tous les mots, les gens ont besoin d'une épaule et ça me remonte des souvenirs. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, au-delà des mots, au-delà de l'écoute, tout simplement d'avoir une épaule parfois sur laquelle on peut se libérer, se lâcher, se... Ouais, j'en parlerai des heures de ces moments assez intenses. Pour répondre plus en détail à votre question, bien sûr qu'il y a un besoin de formation. Et puis après, il y a des gens qui l'ont naturellement ou pas d'ailleurs. Hein. Mais bien sûr, ça passe par un moment de formation, de sensibilisation, je vais dire, ouais.
Et donc, mis à part ces deux moments très importants, donc vous le disiez, les mardis de manière hebdomadaire et le dernier dimanche de chaque mois, est-ce que là, bon, c'est difficile hein, cette année encore une fois de programmer des choses, mais est-ce que vous avez déjà des événements de prévus sur cette année 2021 ou des temps forts ?
On a l'Assemblée Générale qu'on avait de cesse de repousser et qu'on a du coup planifié en mars. Après, on a vu que tous a vu avec les autres associations. On avait et on va replanifier rapidement des ciné-rencontres ou ce que globalement les associations appellent des ciné-débats. Il y a tout un travail de fait avec UND, donc c'est le collectif Unissons nos différences qui travaille. Chaque association qui fait partie du collectif travaille sur une discrimination. sur une thématique ou sur des thématiques. Donc généralement tous les ans au mois de mars, les associations essayent de regrouper des animations autour des semaines d'éducation contre les discriminations. Donc en général il y a une période un peu plus intense de nos associations sur ces dates-là. Et puis après nous sur nos thématiques, on va avoir les marches des fiertés des départements alentours en juin, juillet, août. Et puis on va voir ce que l'avenir nous réserve, si j'ose dire. Pour nous, la difficulté, là, c'est qu'on n'a pas fait de fin d'année, entre guillemets, parce qu'on attendait de pouvoir faire l'Assemblée Générale. On espérait, comme peut-être beaucoup d'associations, de pouvoir la faire en physique, en la repoussant, Et le fait de ne pas avoir fait l'Assemblée Générale fait qu'on a l'impression de pas avoir terminé l'exercice, donc on ne projette pas vraiment sur le nouvel exercice. Mais il y a toujours tout un tas de projets en attente, ouais, qu'on aimerait mettre en place. Puis après, ça dépend aussi du nombre de bénévoles qu'on a à l'instant précis, quoi. Ça évolue ça aussi régulièrement.
J'ai cru voir sur Twitter que vous maintenez malgré tout les interventions en milieu scolaire.
Oui, on a régulièrement des demandes et de plus en plus, on a la chance que les établissements dans lesquels on arrive à rentrer, alors soit on arrive de nous-mêmes à rentrer par un petit message, chose qu'on ne fait plus malheureusement, parce que quand les établissements nous contactent pour intervenir, l'année d'après souvent on y retourne. Donc c'est vrai qu'on a la chance de revenir année après année dans les établissements. Pour certains, ça fait quelques années déjà. On a, l'année dernière, pour la première fois, fait une intervention non pas auprès d'élèves, mais auprès d'un groupe de professeurs. C'est un moment super intense, ça aussi. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on se dit, on a beau informer les élèves, il y a aussi parfois les profs qui sont un peu perdus, qui savent pas quel mot utiliser, qui savent pas comment être au plus juste de la réalité. Donc non, c'était un super moment, ce genre de choses. On fait aussi des interventions sur des stages BAFA, donc pour des futurs animateurs, ou sur des stages BAFD, de futurs directeurs. C'est l'association Les Francas donc qui organise ces formations et qui nous appelle de temps en temps pour intervenir sur ces formations, puisqu'ils ont une petite sensibilisation aux discriminations. Donc on intervient sur nos thématiques, soit carrément sur toutes les discriminations. On fait une sorte d'entonnoir, on parle de toutes les discriminations au sens large et après on développe davantage sur nos thématiques, ou soit que nos thématiques. Et puis un petit point prévention en santé sexuelle éventuellement. Enfin, c'est multicasquette, peut-être davantage que peuvent s'imaginer les gens. On fait beaucoup d'accompagnement, comme vous pouvez l'imaginer, au local, par téléphone ou via les réseaux sociaux maintenant. Ces interventions sur lieu de formation, donc dans les écoles, on a fait collège, lycée bien sûr, sur des formations. On fait de la demande d'asile également, on fait de l'accompagnement administratif, puisqu'il y a aussi parfois quelques jeunes qui se retrouvent un peu distant, ça arrive des mises à la porte, mais parfois des périodes où c'est un peu plus distant, où ils sont en internat ou choses comme ça. Donc on aide sur l'accompagnement administratif, on fait de l'information juridique, après sans rentrer dans des choses hyper poussées de notre part, mais au moins on fait du relais, comme j'ai pu le faire il y a pas longtemps, donner les coordonnées d'avocates, conseils bienveillants sur nos thématiques, parce que ça aussi c'est important, finalement on se rend pas compte, mais quand on est agressé ou qu'on veut, sans pas forcément parler d'agression, mais qu'on veut aussi faire évoluer sa vie, comment se marier, se paxer, etc. On veut, parfois, il y a des gens qui veulent aussi avoir des professionnels sensibilisés pour pas avoir à expliquer, pour être sûr d'être accueilli d'une manière, bienveillante, à la cool, sur une personne qui est à l'aise avec ces thématiques-là. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai pas envie que mon pax soit fait dans des moments de tension, autant que la personne soit bienveillante et que ce soit un moment cool, quoi. Donc l'accompagnement juridique, le relais, la convivialité. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de moments qui sont tout simplement de recevoir les gens au local et juste voir du monde. Je crois que ça va être vraiment important en ce moment, et ça va l'être encore plus au moment où on l'espère tous, ça va enfin redémarrer après cette période Covid. J'en suis déjà à dire après. On dirait qu'on est en plein dedans, mais je pense qu'il y aura un gros besoin de voir du monde, de prendre le temps d'échanger, de vider son sac, si j'ose dire, ouais.
On le rappelle, le local de l'association est ouvert tous les mardis de 14h à 17h sur rendez-vous. Vous pouvez contacter la GOM 53 au 06 48 01 72 61. Ils sont très actifs aussi sur Twitter, Facebook et Instagram.